Ce matin, c'est une prédication que je vous propose sur Dieu et le temps. Après avoir revu récemment un film de 2016 du Québécois Gilles Villeneuve, mais c'est aussi une réflexion sur la rencontre entre Dieu et Moïse, vous savez, cet épisode du buisson ardent que nous n'avons pas relu, mais que tout le monde, je pense, connaît. Dans ce texte où Dieu a la réponse de Moïse qui lui dit « Mais quand tu m'envoies chez mes frères, qui dirais-je que tu es ? Comment te nommerais-je ? » Dieu lui fait cette réponse difficile à traduire, tu leur diras « Je suis » ou bien « Je serai » ou bien « Je serai, je suis » ou bien « Je suis, je serai », c'est lui qui m'envoie. Aucune traduction de cette énigme ne l'emporte sur les autres. Dieu, c'est le principe de vie. Certains le comprennent au présent, d'autres le comprennent dans son éternité. Et ce matin, je voudrais essayer de dire « d'autres le comprennent » au futur. Je reviens à l'évangile de Marc. Si nous prenons ce récit du baptême de Jésus au centre de notre prédication, nous aurions beaucoup de choses à dire. Je voudrais juste ce matin relever que chez Marc, c'est ce qui ouvre l'évangile. Et nous pouvons facilement en déduire que pour Marc, le premier des quatre évangéliste à vouloir témoigner de qui fut Jésus, il ne s'est pas mis en quête de se poser des questions sur l'enfance de Jésus. Pour lui, seul ce qui compte, c'est ce que Jésus a dit, a fait, a annoncé. Pour Marc, Dieu se dit au présent. C'est chez Matthieu et Luc que nous trouvons un rapport à l'histoire différent. C'est chez eux que nous trouvons les expressions « afin que soient accomplies les Écritures ». C'est chez eux que nous trouvons le présent qui éclaire le passé. Et c'est généralement notre façon de faire. Pendant longtemps, nous avons lu l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Parce que c'est évident, c'est ce qui nous intéresse de prime abord. Et c'est là que nous essayons de comprendre qui est ce Christ qui nous révèle Dieu. Alors du coup, nous allons plutôt vers le Nouveau Testament. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, comme nous venons de le faire ce matin, nous y découvrons des récits que nous prenons pour des anticipations du Nouveau. Quand nous entendons ce passage d'Ésaïe, que nous le prenons comme une anticipation du récit de la venue des mages chez Matthieu. Mais Ésaïe n'avait pas cette perspective. Pendant longtemps, nous avons été comme les sociologues à expliquer le présent grâce au passé. Nous sommes des gens raisonnables et c'est bien ainsi. Jésus lui-même nous a demandé, en plus des commandements que l'on trouve dans le Décalogue, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, Jésus rajoute de l'aimer avec toute son intelligence. Mais cette intelligence, nous l'avons déployée à la lumière du monde. La théologie chrétienne a forcément fait avec les outils de son temps, avec la pensée grecque, et a déployé ses réflexions à la lumière d'une image, celle d'un Dieu qui décide de tout. La théologie, à l'aide d'un seul passage biblique que l'on trouve dans l'Apocalypse de Jean, a compris à chaque fois le texte biblique avec l'image du Tout-Puissant, alors que le reste du texte biblique parle, lui, de la puissance de Dieu. Et quand la pensée rationnelle a commencé à relever la contradiction entre l'image d'un Dieu Tout-Puissant et d'un Dieu bon, la théologie a trouvé deux axes de réponse, une, je dis bien, plutôt catholique, que l'on peut ramasser dans des formules courtes quand on ne sait plus trop quoi répondre. On dit « Ah ben ça, c'est le mystère de Dieu » ou bien « Dieu seul sait ce qui est bon ». Et l'autre, plutôt protestante, qui rappelle que Dieu a laissé une fois pour toutes la liberté entière à l'homme. Nous pensons que notre présent trouve son explication dans le passé. Et c'est évidemment vrai pour de très nombreuses choses. Si l'on pense au dérèglement climatique, pour nous, passer d'une journée à l'autre avec un écart de 15 degrés Celsius, évidemment, cela n'est pas dû tout d'un coup à un claquement de doigts qui fait que ce serait quelque chose de très nouveau. Nous héritons des bêtises, pourrait-on dire, de ceux qui nous ont précédés, qui ont pensé qu'il fallait faire à l'instant présent sans penser au futur. Donc c'est vrai que le passé souvent est déterminant pour notre présent. Et la sociologie a contribué à renforcer notre raison sous l'angle du déterminisme. Nos antécédents pour la sociologie, le plan de Dieu pour la théologie, ont influencé nos façons de penser et renforcé l'idée que nous ne pouvions pas opter pour une perspective qui sortait des sentiers battus. Un peu comme dans le mythe de Sisyphe, nous sommes ou nous serions condamnés à répéter la tradition qui nous a permis d'accéder à la connaissance de Dieu. Et quand des voix se firent entendre au sein des églises pour s'opposer à cette façon de comprendre Dieu, elles ont rejoint consciemment ou inconsciemment ceux qui, en dehors de l'Église, annonçaient la mort de Dieu. Mais voici ce matin que nous découvrons Jean le Baptiste et Jésus. Jean a tous les attributs des prophètes du monde ancien et il sait que son monde se finit. Il annonce la venue d'un monde nouveau et ce n'est effectivement pas derrière nous, mais devant nous que Dieu nous invite à tourner nos regards. Et c'est là, dans cette prédication, où je voudrais essayer de vous parler un instant de ce film magnifique que j'ai évoqué, « Premier contact » de Gilles Villeneuve. Je montre la jaquette. Si à la fin de la prédication, à la fin du culte, l'un ou l'une d'entre vous dit « Ah, je ne l'ai pas vu, ça m'intéresserait », je n'ai qu'un exemplaire à faire circuler, mais le premier ou la première qui aura envie sera le premier ou la première servie. Je rajoute, dans une parenthèse que j'ouvre et que je referme tout de suite, que je n'ai aucune action, ni dans les productions, je ne suis pas apparenté à Gilles Villeneuve, j'ai simplement reçu ce film avec une grande émotion, et parce qu'elle ouvre en fait des perspectives tout à fait intéressantes dont je voudrais essayer avec en toile de fond ce verbe de Dieu au présent, au passé, au futur, essayer de dire quelque chose qui peut-être pourrait nous permettre de penser notre relation à Dieu de manière nouvelle. C'est un film de science-fiction ou peut-être d'anticipation, je ne sais pas trop comment il faut le qualifier. Avant d'en parler, je veux juste vous rappeler que sans doute, je n'ai pas fait de recherche, mais sans doute quand Léonard de Vinci a commencé à faire des dessins de choses pour l'époque un peu étonnantes, on a dû le prendre pour un élucubrateur de fiction, et c'est bien plus tard qu'il s'est révélé être un anticipateur de génie. Alors ce film, je ne vais évidemment pas vous faire un résumé complet, je voudrais juste dire deux choses. Et pour cela, sans trop dévoiler quelque chose, donner un peu les éléments pour essayer de comprendre. Très vite dans le film, 12 vaisseaux extraterrestres s'installent dans 12 zones de la Terre, obligeant les 12 lieux, et donc leurs dirigeants, à se concerter. De mémoire, je sais qu'il y a les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie, et les autres, je ne me souviens plus très bien. Voilà donc ces grandes puissances qui sont obligées de se concerter, de dire qu'est-ce que vous comprenez, etc. Avec évidemment une question lancinante, sont-ils venus pour nous conquérir ou bien faire la peau, je ne sais pas trop comment le formuler, elle est juste formulée un peu comme ça, par crainte. Et puis, très vite, pas très vite, mais assez rapidement, on sait que ce n'est pas du tout la perspective, ils ne sont pas venus conquérir le monde, alors que sont-ils venus faire? Et on découvre qu'ils sont venus apporter quelque chose qui ressemble à un don absolu, qui est ce que j'ai dit, d'être obligé de se concerter pour pouvoir partager des choses. Ça rappelle cette formule un peu à l'emporte-pièce, si nous ne coopérons pas, nous mourrons probablement bêtement chacun de notre côté. Et deuxième reformulation, mais alors pourquoi être venu? Et la réponse tout à fait surprenante, c'est parce que nous aurons besoin de vous dans 3000 ans. Nous terminons le film sans savoir exactement de quoi l'humanité sera-t-elle capable d'aider ceux qui sont venus à leur rencontre. Dans ce film, les militaires et les politiques sont l'exemple de ceux qui cherchent à comprendre ce qui se passe avec leur raisonnement qui vient du passé. Et ce sont donc des inconnus, un peu comme Dieu le reste pour nous, qui parlent du présent grâce à l'avenir. Dans ce film, nous découvrons que la clé, elle ne nous est pas donnée dans l'instant présent, elle est révélée dans le futur qui vient à notre rencontre. Et c'est quelque chose d'assez étonnant, car au tout début, on est un peu dérouté, on ne sait pas si l'on rêve, on ne sait pas si l'on est présent, on ne sait pas si on est dans le futur. Et puis, tout d'un coup, on est dans cette harmonie où on comprend que on, les aliens ou Dieu, compte sur nous. C'est assez vertigineux. Mais finalement, quand des gens à l'extérieur de nos églises nous font remarquer que nos textes bibliques sont assez étonnants, c'est vrai, ce film n'est pas plus étonnant que de se dire que Dieu se fait connaître dans un buisson qui brûle sans se consumer. Ça n'est pas plus étonnant que de se dire que si nous sortons 5 pains et 2 poissons de nos sacs quelque part, nous pouvons nourrir une foule affamée si, à la demande du divin, nous offrons ce qui nous reste. Dans ce film, comme dans la Bible, nous voyons en fait des personnes qui parlent avec leur cœur autant qu'avec leur bouche. Et dans un monde où le simple mot de Dieu en fait sourire plus d'un, et parfois même nous conduit à le taire pour ne pas gêner, voici que nous sommes appelés à penser que Dieu nous demande de produire du neuf. Le vieux monde s'en va. Dieu nous dit que notre présent, tout cabossé qu'il est dans ses mains, et que, comme nous le chantions sur l'air d'un vieux négro spirituel, il tient le monde dans ses mains et il te tient, toi aussi, mon frère et ma sœur, dans ses mains. Oui, Dieu a déposé en nous l'intelligence qui nous rend capables de comprendre les mystères de Dieu. Dieu s'est choisi comme seul interlocuteur valable parmi toutes les espèces innombrables de la terre. Il lui a donné cette intelligence du cœur qui lui permet de comprendre ce que Dieu attend de lui. Et ici, je rouvre une nouvelle parenthèse pour dire que cela, c'est ce que nous disons dans notre présent, mais peut-être que dans un futur, à moyen terme, cette prédication serait différente. Peut-être qu'il faudrait rajouter quelque chose comme d'autres espèces animales à côté de nous ont aussi cette intelligence, peut-être même les espèces végétales, qui nous obligeront, je le pense, à reconsidérer notre place au sein de la création. Et je ferme la parenthèse pour revenir à notre présent. Pour l'instant, en fonction de nos connaissances, Dieu a permis que l'histoire des hommes soit jalonnée par la présence de nombreux prophètes qui, dans leur culture, ont guidé les humains sur les voies de la sagesse de Dieu, avec des mots comme « prochain »,« amour », »,« partage » qui scandent leur message indépendamment des religions dont ils sont issus. Et il a même plu à Dieu de bousculer l'ordre des choses. Il s'est permis de venir en personne cheminer sur nos chemins. Il a choisi de partager les souffrances de l'humanité et d'assumer son destin. Il a choisi de se faire connaître dans les actions de Jésus pour se faire plus proche de nous. Et c'est même sur les sentiers de la mort qu'il a cru bon de partager le sort de l'humanité. Pour avoir une parole claire, c'est lui qui a inspiré les évangiles où toujours les mêmes mots, prochain, vie, espérance, amour, partage, s'entremêlent dans une, finalement, une belle harmonie. Ainsi, porté à dos de chameau ou peut-être porté par le souffle de l'Esprit de Dieu, les promesses d'un monde nouveau, édifié par la sagesse des hommes et éclairé par les promesses de Dieu, se profilent à notre horizon. Et Dieu invite les hommes, les femmes, à mettre un temps d'arrêt dans leur projet humain pour se laisser habiter par la sagesse du cœur, cette sagesse qui nous emplit quand nous laissons Dieu parler en nous. Et alors, nous pouvons assembler les mots d'amour, les mots de responsabilité, les mots d'espérance qui se mettent à rimer entre eux selon la volonté de Dieu. Dieu a pris la route. Et comme dans la fin de l'évangile de Matthieu, son messager nous dit que nous le trouverons si nous prenons à notre tour la route. Et pour cela, il faut faire un peu comme les pèlerins d'Emmaüs. Il faut quitter le monde ancien, celui où l'on croit que la mort a mis fin aux espérances. Notre avenir est dans ses mains. Il nous attend. Amen.